Bien, dans notre série sur l'Église, et plus particulièrement sur l'Église locale, parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Hein, on a une petite assemblée ici que le Seigneur a réunie, et nous sommes reconnaissants pour l'œuvre de Dieu dans la vie de chacun, dans la vie de cette Église. Mais nous sommes en train de voir, eh bien, les spécificités de l'Église, et plus particulièrement, ben, les membres de l'Église, leurs privilèges et leurs responsabilités au sein d'une église locale. Et ce matin, on va regarder déjà un premier passage, si vous le voulez bien, qui se trouve dans Galates, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, et c'est le verset 13. Et ne vous inquiétez pas, on va expliquer pourquoi aussi ce passage est important pour nous ce matin, mais Galates chapitre 5 et verset 13, Paul, il nous dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Alors déjà, ce verset, ça va nous permettre d'aborder le sujet pour ce matin, mais aussi le sujet pour la fois suivante concernant notre service au sein de l'Église locale. Mais Paul ici parle de la liberté. Et c'est ce dont on va parler ce matin, c'est ben, la liberté individuelle du croyant, mais qui est au service du collectif, au service de l'Église locale. Parce que bien que l'Église soit un corps, ben, ce corps, il est composé de membres, il est composé d'individus. Hein, dans notre passage d'un Corinthiens 12, qui nous a servi de base pour cette étude sur le membre de l'Église locale, au verset 27, il nous rappelle, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part, ça nous appelle, ça nous indique que, eh bien, individuellement, nous sommes appelés à faire partie de ce corps. Individuellement, nous faisons partie de ce corps et donc nous avons des responsabilités vis-à-vis de ce corps. Qu'est-ce qui va montrer déclarer la qualité d'une église. Alors certains vont vous dire, c'est une bonne église quand il y a un bon pasteur, un bon prédicateur. Ce sont des bonnes choses, mais la qualité d'une église ne se limite pas à ça. Hein, ce n'est pas le fait d'avoir un bon prédicateur ou d'avoir un pasteur compatissant, même si c'est essentiel. La qualité d'une église non plus ne se définit pas par le fait que, bon, voilà, on a toutes sortes de programmes, et on organise plein de réunions et on essaye de faire quelque chose pour tous les groupes d'âge, etc. Ce n'est pas ça qui définit la qualité d'une église. Ce n'est pas le fait d'avoir une chorale ou d'avoir un orchestre, ou encore moins d'être populaire hein, dans la ville. C'est pas ça qui va définir la qualité de l'Église. Déjà, une des choses qui est soulignée dans le Nouveau Testament et même dans l'Ancien Testament par rapport aux croyants, ce que Dieu va remarquer, c'est pas l'apparence extérieure, c'est pas forcément les choses qui sont faites. Bon, l'Éternel, il regarde au cœur déjà. Et Paul, il nous rappelle aussi que, en tant que dispensateur, eh bien, des grâces de Dieu, des dons qu'il nous a accordés, nous sommes appelés à être fidèles avant tout. Et c'est pour ça que Paul, ici, il nous rappelle, dans Galates, eh bien, on a eu cette liberté, on a cette liberté en Jésus-Christ, mais ne faites pas cette liberté un prétexte pour faire n'importe quoi. Mais rendez-vous par amour, un serviteur les uns des autres. En fait, voilà, la qualité d'une église, d'une assemblée, c'est d'avoir un ensemble de croyants qui sont réunis pour la louange, pour l'adoration du Seigneur, mais qui sont surtout aussi disposés à faire la volonté de Dieu, à obéir à sa parole, à accomplir le rôle qui leur est confié, et cela en employant non pas leurs capacités humaines, non pas des talents qu'ils ont pu développer, mais en employant les moyens accordés par Dieu, hein, les dons spirituels et aussi les dons que l'Éternel a fait pour l'Église. Et donc c'est pour cela que nous sommes appelés chacun pour notre part, eh bien, à faire partie de ce corps et à agir dans ce corps et à faire ce que le Seigneur nous demande. Donc cette liberté que nous avons, elle doit être employée pour le bien collective de l'église locale. Quand on va aborder le sujet justement des dons spirituels, une des choses qu'on doit toujours noter par rapport à ces dons spirituels, c'est que c'est pour l'utilité commune. Dieu, il n'a pas accordé des dons spirituels pour faire de nous des super chrétiens et que voilà, on ait une vie spirituelle extraordinaire. Non, les dons spirituels que Dieu accorde aux croyants sont pour l'utilité commune. C'est-à-dire qu'on ne les emploie pas pour nous-mêmes, mais on les emploie pour nos bien-aimés dans l'Église. Alors, la liberté individuelle du croyant est un principe qui est présent dans les Écritures. C'est aussi un principe que, eh bien, les églises de confession baptiste ont toujours, toujours eu hein, dans leur croyance et dans leur manière de pratiquer leur foi. C'est cette liberté individuelle. C'est-à-dire que chaque personne, déjà, un, a la liberté de choisir ou non de se repentir et d'accepter la grâce de Dieu ou de la refuser. Mais ensuite, pour le croyant, il a une liberté de choisir, de décider. Hein, c'est pour ça que même dans une église locale, comme on le voit dans le Nouveau Testament, on a vu que les croyants, ils sont appelés aussi à prendre part dans les décisions de l'église. Hein, on a vu des votes, on a vu des élections. Ça veut dire que on a cette liberté de décision, cette liberté personnelle, ou qu'on appelle aussi la liberté de l'âme, la liberté de conscience, est un principe qui, évidemment, est cher aux chrétiens baptistes, parce que historiquement, voilà, c'est un des points auxquels ils ont toujours été attachés. Un historien et homme d'État américain du 19e siècle, George Bancroft, a dit ceci: la liberté de conscience, la liberté d'esprit illimitée fut dès le début le trophée des baptistes. Ça a été son analyse des chrétiens baptistes. Un autre homme, un philosophe du 17e siècle, John Locke, a dit ceci également: les baptistes ont été les premiers à proposer la liberté absolue, la liberté juste et vraie, la liberté égale et impartiale. Vous voulez que je vous dise? Ce que ce philosophe-là, il a dit, pour moi, c'est faux. On n'a pas été les premiers. Parce que cette liberté, elle est présente dans les Écritures. Dès le départ, les chrétiens du premier siècle ont vécu selon cette liberté-là, selon ce principe-là. Et nombreux sont, oui, il est vrai, les chrétiens baptistes qui sont morts, qui ont été persécutés en défendant ce principe, parce que ils étaient dans des contextes où il y avait une religion dominante et qui ne voulait pas que les personnes aient cette liberté-là. Nombreux sont ceux qui ont donc été persécutés, mis en prison ou même mis à mort. John Bunyan, qui a vécu au XVIIe siècle, hein, celui qui a écrit notamment Le Voyage du Pèlerin. Si vous avez déjà lu cet ouvrage, c'est bien. Si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à le faire. Il a été mis en prison. Il a été mis en prison pendant de nombreuses années parce que, voilà, en tant que pasteur baptiste, il ne voulait pas accepter les limites à la liberté de religion. Un autre, Roger Williams, il a été persécuté pour ses opinions sur la liberté religieuse, toujours au XVIIe siècle. Et en 1636, donc il va fuir le Massachusetts et se réfugier hein, parmi des Amérindiens. Et il va ensuite fonder hein, la première colonie, la colonie de Rhode Island, en garantissant la liberté de conscience à tous les citoyens. C'est-à-dire que, voilà, ce n'est pas un État qui va dire « vous devez croire ceci ». Ce n'est pas une Église qui va dicter « vous devez vivre comme ça et croire ceci et faire tout ce qu'on vous dit ». Et c'est cette liberté-là que nous avons en Christ. Pourquoi? Parce que Dieu, dans l'Écriture, nous montre qu'il donne ce choix. Il a donné ce choix à Adam et Ève en donnant une règle et en donnant une situation où ils devaient faire le choix entre continuer d'obéir à Dieu ou de suivre le péché. Donc cette liberté que nous avons déjà en Christ, elle est importante, elle est essentielle dans l'Église locale de le comprendre. Pourquoi? Parce que le pasteur, n'est pas là pour dicter sa propre loi ou dicter ses propres opinions. Le pasteur, déjà, c'est un chrétien comme tous les autres, un chrétien qui, à un moment donné dans sa vie, il a dû se repentir de ses péchés, se soumettre à la volonté de Dieu, et comme tous les autres, eh bien, il a aussi des luttes. Comme tous les autres, il a des domaines où il doit demander davantage l'aide de Dieu et la grâce de Dieu. Donc oui, un pasteur n'est pas là pour dicter ses propres opinions ou ses propres objectifs. Le pasteur, il est là pour quoi? Pour, comme le Seigneur Jésus, il avait dit à Pierre, hein, paie mes brebis, nourris mes brebis, hein, prends-en soin, transmets la connaissance des Écritures. Et donc l'essence de ce principe, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on entend par ce principe de liberté de conscience ou cette liberté que nous avons en Christ? En quoi cela nous regarde concernant justement ces responsabilités envers l'Église locale? Alors cette liberté que nous avons de croire, une fois que nous sommes chrétiens, ce n'est pas une liberté de croire ce que l'on a envie de croire. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises sont dans cette vision-là. Ah, ça, c'est quelque chose qui me plaît dans la Bible. Ça, c'est quelque chose qui ne me plaît pas dans la Bible. Ça, c'est quelque chose qui, on me dit, aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire ça. Mais oui, aujourd'hui, ouais, je veux penser différemment de cela. Au lieu d'avoir des églises qui sont en train d'influencer la culture d'une société, nous avons une société, une culture qui sont en train d'influencer l'église et les chrétiens. Donc cette liberté que nous avons, comme Paul nous dit, n'en faites pas un prétexte pour vivre selon la chair. Ne faites pas de cela un prétexte pour, moi je vais croire ceci parce que j'ai envie. Non, nous sommes appelés par cette liberté, eh bien, à avoir un regard sur la parole de Dieu, sur sa volonté pour notre vie, pour la vie de l'Église, qui doit être conforme à ce que Dieu attend. Ce principe déclare donc que tout croyant possède une responsabilité. Cette responsabilité, eh bien, de comprendre, d'obéir, eh bien, aux exigences de Dieu pour lui-même. Parce que la vie chrétienne, c'est cela. C'est je dois d'abord prendre soin de ma vie spirituelle avant de pouvoir prétendre aider la vie spirituelle d'un autre, n'est-ce pas? Ce devoir ne peut donc pas être délégué ni assigné à une autre personne. Je ne peux pas compter sur Joshua pour me dire quoi prêcher le dimanche matin. Il secoue la tête. Non, tu le dis à ton papa, pas à moi. Je ne peux pas compter sur les autres pour prendre les décisions pour moi, n'est-ce pas? C'est à moi de prendre ces décisions. Les Écritures responsabilisent chaque individu. Comme le Paul le rappelle dans Romains chapitre 14 et verset 12, il dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour qui? Pour lui-même. Après, voilà, pour les pasteurs, il y a un petit cran au-dessus, parce que nous avons une responsabilité vis-à-vis des croyants dans l'assemblée, et pour cela, nous devons aussi rendre des comptes un jour. Mais d'abord, on doit rendre des comptes pour nous-mêmes. Je ne peux pas choisir ni croire pour le compte de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de possibilité de proxy, là, de remplir un pouvoir et de le donner à quelqu'un, tu choisis pour moi. Non. Dans le christianisme, il n'y a pas cela. Il y a la responsabilité de chacun de choisir pour lui-même sur la base de ce qu'il a lu dans les Écritures. Hein, contrairement même à ce que les Mormons peuvent croire et enseigner, hein, je ne sais pas si vous saviez ça au sujet des Mormons, vous savez pourquoi ils font beaucoup de recherches dans les généalogies? Pourquoi les grands sites de généalogie, c'est souvent l'Église des Saints des Derniers Jours qui est derrière cela? Parce qu'ils ont cette croyance que, voilà, ils peuvent se faire baptiser pour les morts, et ainsi ces personnes, voilà, ils peuvent aller au ciel. Bon, déjà, ça résulte d'une très mauvaise compréhension du passage qui parle du fait que, voilà, ceux qui sont morts avant nous, les chrétiens qui sont morts avant nous, est-ce qu'ils ont été baptisés pour rien? Non. Voilà, leur témoignage, il sert encore pour nous aujourd'hui. Mais toujours est-il que on ne peut pas faire un choix pour le salut de quelqu'un d'autre. Ou même dans l'Église catholique, hein, où il s'agissait, hein, de donner de l'argent pour aider les bien-aimés à sortir du purgatoire et finalement aller au paradis. Ces choses ne sont pas dans les Écritures. Mais rappelez-vous même de ce que Paul lui-même ressentait. Hein, on a récemment lu, hein, relu l'épître de Paul aux Romains, où Paul, il partage son cœur pour sa nation, son peuple, pour le peuple d'Israël. Et Paul lui-même, il dit, je suis prêt à être anathème, je suis prêt à être maudit si cela pouvait sauver les bien-aimés de ma nation. Et je crois que beaucoup d'entre nous, nous avons eu ce sentiment-là vis-à-vis de certains de nos bien-aimés. Je serais même prêt à aller en enfer pour que cette personne-là aille au ciel. Mais ce n'est pas possible. Le choix en revient à chaque personne. Ah oui, nous vivons certes à une époque où de nombreuses personnes préfèrent que quelqu'un d'autre fasse les choix pour nous. Hein, c'est pour ça qu'on vote pour des représentants qui vont décider pour la nation, etc. Et souvent, c'est, on le sait, souvent du grand n'importe quoi. Et on aurait mieux fait de choisir pour nous-mêmes. Mais voilà, on ne peut pas faire cela. Et j'espère que vous n'êtes pas dans cette optique-là dans votre vie spirituelle. Dans cette optique de ce que, eh bien, que ce soit pour Philippe ou pour moi-même, eh bien, que vous dépendiez de nous pour votre vie spirituelle. Ou que vous dépendiez de nous, hein, pour vous dire quoi faire dans votre vie. Nous sommes là pour présenter ce qu'enseignent les Écritures. Nous sommes là pour donner les conseils, pour aider, pour prier avec vous. Mais n'attendez pas à ce qu'on décide pour vous. Nous ne pouvons pas nous substituer à une autre personne, déjà pour lire la parole de Dieu, pour l'étudier, pour la comprendre, et surtout encore moins pour l'appliquer dans notre vie. L'obéissance à laquelle nous sommes appelés en tant que chrétiens implique de faire ce que Dieu nous demande de faire. Cela concerne notre conduite personnelle, mais ça aussi concerne eh bien, notre vie dans l'Église. Cela concerne la doctrine. Et donc, cette liberté que nous avons, c'est surtout une liberté qui nous responsabilise, qui nous interpelle chacun, eh bien, à plonger nos regards dans les Écritures et à s'imprégner de la parole de Dieu. Quand Paul écrivit aux Colossiens, au chapitre 3 et verset 16, il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Il dit pas, ayez une bonne connaissance. Il dit pas, voilà, vous avez lu la Bible une fois dans votre vie, c'est très bien. Paul lui dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Ça veut dire que on a un sérieux travail à faire, chacun d'entre nous. Déjà, de lire pour connaître quelle est cette parole de Christ, mais aussi qu'elle demeure en nous, qu'elle reste là, qu'elle réside. Et c'est bien plus qu'un travail de mémorisation ou de mémoire. C'est un lien étroit avec la parole de Dieu. On a cité, certains ont cité ce matin, des psaumes, hein, et combien il est question de la loi et de l'amour du psalmiste pour la loi de l'Éternel, et combien ça fait du bien. Le psaume 119, hein, verset 97, nous dit « Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Tout le jour. Hein, c'est pour ça qu'on encourage chacun, et je sais, c'est compliqué souvent, mais de développer cet amour pour la parole de Dieu, de prendre le temps dans la parole de Dieu. Parmi Les versets que nous sommes en train d'apprendre avec notre famille, hein, c'est le psaume premier. Et dans le psaume premier, hein, il nous est dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors, ce n'est pas simplement une exigence à laquelle nous sommes appelés. Hein, il y a des promesses avec cela. Heureux, heureux celui, hein, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il dit après, voilà les bénédictions. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, donc constamment nourri, constamment. Il a cette eau qui le désaltère, qui donne son fruit en sa saison. Et ça, c'est important de le souligner. Parce que si nous sommes un arbre planté près d'un courant d'eau, mais qu'on ne produit pas de fruits, il y a quelque chose qui ne va pas. L'arbre fruitier, il est appelé à produire du fruit. Tout comme le chrétien, eh bien, planté, enraciné dans la parole de Dieu, constamment, eh bien, nourri, constamment désaltéré par la parole de Dieu, il est appelé à produire du fruit dans sa vie. Il donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc oui, le rapport du chrétien avec la parole de Dieu, de la lire, de la méditer, elle est essentielle déjà pour nous. Ben, pour croire, parce que c'est la Bible qui nous présente Dieu. Elle est essentielle pour croire, pour avoir la vie éternelle. Toujours dans cet épître aux Romains, au chapitre 10, Paul, il a dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc notre foi, elle est liée à ce que nous entendons. Elle est liée à ce que nous lisons dans les Écritures. Est-ce que nous avons donc déjà cette même attitude que le psalmiste, cette même soif de la présence de Dieu dans notre vie par sa parole? Ou même lorsque Simon-Pierre répondit au Seigneur en Jean chapitre 6, verset 68, il dit: Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Lire la Bible pour soi-même, comme nous l'avons dit, il y a les bénédictions de pouvoir déjà être dans une société où on éduque les gens à lire. C'est précieux de savoir lire. Mais aussi d'être dans un pays où nous avons accès à la parole de Dieu, dans un pays où on a un historique d'hommes et de femmes qui ont été persécutés pour avoir la parole de Dieu. Hein, pour la petite histoire, ce n'est que en 1535, avec la traduction d'Olivier Tan, que le peuple français a pu avoir une Bible en français, traduit directement de l'hébreu et du grec. Quelques années auparavant, il y avait eu la traduction de Lefebvre d'Étaples, et cette traduction, elle avait été basée sur déjà une traduction, hein, la Vulgate, une traduction latine, donc on avait une traduction d'une traduction. Alors pour ceux qui étudient les langues, vous savez combien ça, c'est pas une très bonne chose. Mais voilà, 1535. Depuis 1535, en France, on a en français, dans notre propre langue, la parole de Dieu. Mais ça ne voulait pas dire non plus que tous les Français, maintenant, ils avaient une Bible dans leur langue. Il a fallu des siècles et des siècles pour qu'elle soit réellement accessible, pour que les foyers puissent avoir une Bible dans leur propre langue. Mais cette parole que nous avons et qui est précieuse, nous ne devons donc pas la négliger. Dieu y révèle dans sa parole bien, les vérités dont on a besoin, les vérités dont les chrétiens ont la responsabilité de croire et de croire avec exactitude. Et c'est pour ça que cette partie de lire, de méditer, d'étudier, etc., elle est importante. Mais elle est importante pour notre vie personnelle, pour notre conduite, mais elle est importante aussi par rapport à la doctrine qu'on y découvre. Et cette doctrine, eh bien, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui déjà. Un des premiers points de doctrine que nous avons tous en commun, c'est que nous croyons que Dieu existe. Un autre point de doctrine que nous avons en commun, c'est que nous croyons que Dieu existe en trois personnes distinctes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tous égaux, avec des responsabilités différentes, mais voilà, un Dieu en trois personnes. Nous avons aussi cette doctrine en commun que le Père a envoyé le Fils mourir sur la croix pour nos péchés. Nous avons cette doctrine en commun que par Jésus-Christ, par la foi, par la repentance de nos péchés, eh bien, nous avons cette vie éternelle qui nous est promise. Donc la doctrine, connaître les doctrines, est quelque chose d'extrêmement important et quelque chose d'extrêmement précieux pour nous. Et donc nous avons ce devoir d'étudier, de comprendre et de connaître la doctrine pour être dans le vrai. Pensez-y. Si aujourd'hui nous disons, nous sommes chrétiens, nous sommes disciples de Christ, nous croyons en Dieu. Bon, la Bible nous présente Dieu de tellement de façon différente, mais ce que nous savons de Dieu, les choses fondamentales, c'est que voilà, Dieu il est saint, Dieu il est juste, Dieu il est amour et miséricordieux, il est plein de grâce. Bon, ces choses-là, nous les connaissons parce que la Bible nous les montre. Mais la Bible nous dit aussi que il n'y a pas de mensonge en Dieu. Dieu est la vérité. Jésus-Christ, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, même la notion de vérité, d'être dans le vrai, si on est disciple de Christ, on devrait constamment poursuivre et chercher cette vérité. Et être sûr que nous sommes dans la vérité en tant que chrétiens, mais d'être sûr aussi que, eh bien, en tant que chrétiens, dans l'église où nous sommes, eh bien, nous sommes dans une église qui se trouve dans la vérité. Alors oui, la Bible a été écrite, a été transmise, pour quelle raison? A été transmise pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu, pour notre vie et pour la vie de l'Église locale. Et bien qu'il y ait des parties dans les Écritures qui peuvent être plus difficiles à comprendre que d'autres, et que parfois, oui, ces passages difficiles nécessitent certaines compétences d'interprétation ou des études plus avancées, mais le fait est que la Bible, dans son ensemble, elle n'a pas été écrite dans un code secret, dans un langage secret. Il n'y a pas de mysticisme, de message caché entre les versets ou quoi que ce soit. Non, on a un texte qui nous a été transmis et qui nous montre clairement qui est Dieu, qui nous sommes et ce qu'il attend de nous. Il n'y a pas de code secret. Ce qui veut dire que toute personne qui a cette capacité de lire a cette capacité, bien, de connaître Dieu, de connaître la vérité. Alors oui, il y a certaines parties de texte qui sont de nature plus technique. Même l'apôtre Pierre, il parle des écrits de Paul dans ce sens-là, dans 2 Pierre 3, 16, où il parle qu'il y a des passages difficiles, dans les écrits de Paul. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Difficile, ça veut dire que il va falloir mettre plus d'efforts. Il va falloir fournir plus de recherches. Mais la grande partie de la Bible ne nécessite pas plus de compétences pour être comprise que même juste lire un simple journal, par exemple. On lit un article et on comprend les événements qui sont décrits dans cet article. La parole de Dieu, elle est aussi simple et claire que ça. Dans les choses les plus importantes de notre vie, c'est clair. Donc tous les croyants doivent comprendre et connaître, obéir à la parole de Dieu pour eux-mêmes. Mais voilà, est-ce que nous comprenons tous de la même manière? Visiblement non. Et c'est pour ça qu'il existe des églises, avec des dénominations différentes, des noms différents, parce que voilà, il y a certains points de doctrine, et ben nous, on ne voit pas ça comme ça. Nous, on ne le comprend pas comme cela. Ça ne veut pas dire que ce sont forcément tous des hérétiques, mais n'oubliez pas que nous avons cette liberté que Christ nous donne, déjà de lire, de comprendre les Écritures, et chacun pour sa part. Nous avons cette liberté de comprendre la doctrine, de comprendre ce que Dieu attend de nous. Mais voilà, tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Déjà, un, c'est pour ça que Dieu aussi, il a donné à l'Église des dons spirituels et qu'il a donné, bah, comme dans les passages qu'on a déjà abordés hein, dans cette série de messages, mais qu'il a donné à l'Église bah, des chrétiens spirituellement équipés pour étudier, pour enseigner, pour prêcher la parole, hein, comme on l'a vu dans Éphésiens. Mais ça n'enlève pas le fait que chacun d'entre vous, vous êtes aussi responsable de connaître pour vous-même ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et ça, c'est une des libertés que nous avons en Christ également. C'est celle de recevoir l'instruction. Et c'est une des beautés aussi de l'Église locale, c'est que Dieu, il a donné l'Église pour qu'en tant que chrétien, eh bien, nous puissions connaître la volonté de Dieu, mais aussi en tant que chrétien, eh bien, nous pouvons nous instruire les uns les autres. Nous sommes tous appelés à recevoir humblement l'instruction, pas l'instruction du pasteur, l'instruction de la parole de Dieu. Certains chrétiens, malheureusement, croient que voilà, ils n'ont juste besoin que du ministère du Saint-Esprit qui va les guider, les diriger, et c'est lui qui va me montrer et m'enseigner. Alors certes, oui, le Saint-Esprit va faire ça pour nous, mais le Saint-Esprit, il va agir dans la vie du croyant quand le croyant lui-même est déjà, il est disposé à obéir et qu'il est déjà en train de servir le Seigneur, de faire. Là, le Saint-Esprit, il va pouvoir agir. Ah, il y a quelqu'un qui est disposé à ce que je le dirige vraiment, et il est en train de le montrer de manière déjà concrète. Alors oui, mais il va pas fournir une révélation spéciale et extraordinaire ou quoi que ce soit. Non, Dieu, il nous a donné à chacun bah, des capacités intellectuelles déjà pour comprendre et lire et appliquer aussi la parole chacun pour soi. Mais comme on l'a vu, encore une fois, l'Église locale, elle est là aussi dans ce but, que cette instruction de la parole, eh bien, nous puissions la partager les uns avec les autres. On l'a vu, hein, comme Paul, ce que Paul a dit dans Colossiens 3,16, hein, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Mais la suite du verset, je l'ai gardé juste pour cette partie-là. Parce que la suite du verset, c'est aussi instruisez-vous, exhortez-vous. Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, hein, par les psaumes. Hein, les psaumes, c'est pas juste des chants. Hein, les psaumes, comme on l'a vu ce matin, il y a des choses importantes. Hein, Damaris a souligné ce psaume 22, hein, qui, ah ben, on voit les paroles que Christ a prononcées hein, sur la croix, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce que ce psaume 22, nous comprenons que c'est ce qu'on appelle un psaume messianique, c'est-à-dire que c'est un psaume qui était en train de prophétiser des choses concernant le Messie. Alors, est-ce que le psalmiste, il comprenait que ça concernait le Messie? Peut-être pas. Mais pour ceux qui ont vécu à l'époque de Christ et qui ont entendu ces paroles-là, oh! Ou quand Christ, il était sur le chemin d'Emmaüs avec les deux disciples et qu'il prend le temps de leur expliquer depuis le début des Écritures jusqu'à aujourd'hui qu'il fallait que le Christ, eh bien, souffre sur la croix, ça fait tilt. Et il y a des choses comme ça qui, c'est extraordinaire, que Dieu, il a écrit des choses des siècles auparavant que ces personnes-là ne comprenaient pas forcément, mais que nous, aujourd'hui, nous comprenons amplement la portée de ces passages-là. Et c'est extraordinaire. Mais instruisez-vous donc les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu hein, dans vos cœurs en vertu de la grâce. Recevoir cette instruction est importante. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes venus au Seigneur, est-ce que nous sommes devenus des êtres parfaits à ce moment-là? Non. Christ, il parle de nouvelle naissance. Nous sommes des bébés à ce moment-là. Et il y a plein de choses que nous ne sommes pas forcément capables de prendre et de comprendre. Hein, même plus tard, hein, il est question de la nourriture spirituelle. Hein, il parle de cette comparaison entre de ce que certains chrétiens, bah, ils se contentent que du lait alors qu'ils devraient être en train de manger de la viande, spirituellement parlant. C'est-à-dire qu'ils se contentent des choses de base. Hein, je suis sauvé, j'aime le Seigneur. Ah, ben je vais à l'église et puis je chante et puis voilà, ça c'est l'étendue de ma vie chrétienne. Ça c'est des chrétiens qui en sont que à du lait. Mais un bébé n'est pas supposé rester bébé. Il est appelé à grandir. Hein, c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 5, les versets 12 à 13. Il dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. C'est pas un petit mot, ça, maître. C'est-à-dire que depuis longtemps, vous devriez avoir acquis une connaissance de la parole de Dieu, une connaissance des doctrines, une connaissance de la volonté de Dieu, que vous devriez être déjà là-haut depuis longtemps, il dit. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Voilà l'importance de recevoir l'instruction. Parce qu'effectivement, j'en suis persuadé, parce que c'est le cas aussi pour moi, que quand je suis en train de lire quelque chose dans la parole de Dieu et je suis en train de me gratter la tête, mais ok, de quoi est-ce qu'il est en train de vraiment parler là? Et là, je suis obligé, soit de demander à d'autres pasteurs, vous le comprenez comment ce passage-là? Ou d'aller dans des commentaires bibliques. Allez, je ne prends pas qu'un seul commentaire biblique, hein, j'en prends plusieurs pour vérifier, avoir l'avis de différentes personnes qui ont étudié, qui ont poussé, hein, cette étude de la parole de Dieu le plus loin possible dans leur vie. Et de là, voilà, ok, maintenant je peux me comprendre mieux ce passage-là et voir comment ça s'applique. Nous avons tous besoin de recevoir l'instruction de la parole pour notre progression, pour notre marche. Et cette instruction, donc, elle est nécessaire pour notre vie chrétienne et elle est nécessaire pour l'Église aussi. Hein, le chrétien ne devrait jamais penser qu'il connaît assez les Écritures. Je sais que moi, quand j'étais au collège et au lycée, une des choses qu'on mettait souvent sur mon bulletin, c'est se repose trop sur ses lauriers. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que je ne faisais pas tous les efforts que je pouvais fournir. Et souvent, dans notre vie chrétienne, on est comme ça. Hein. Le Seigneur il pourrait mettre sur notre bulletin, peut mieux faire. Ne fournit pas tous les efforts. Hein, se repose sur ses lauriers. Mais le chrétien ne devrait jamais penser qu'il connaît assez les Écritures. Dans Proverbe chapitre 1er et verset 5, 7, pardon, il parle de cette crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse, de la science. Mais il dit ceci aussi. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc si on a un rapport déjà avec l'instruction, où on ne veut pas l'instruction, on n'aime pas l'instruction, etc., ça nous met dans quelle catégorie? C'est des insensés. Rappelez-vous ce que Paul, il dit dans ce passage de Galates 5, 13, il dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, hein, mais rendez-vous serviteurs, par amour serviteurs les uns des autres. On a été appelé à cette liberté, pas pour se reposer sur nos lauriers, mais on est appelé à cette liberté pour pouvoir progresser. Tous les chrétiens commencent, eh bien, la vie par la foi à un niveau d'immaturité. Nous sommes tous des bébés en Christ au moment de notre salut. Mais voilà, nous sommes appelés à gagner en maturité spirituelle. Nous sommes appelés à comprendre les Écritures, à interpréter les Écritures. Et au-delà d'un certain point, on attend même Dieu, eh bien qu'il soit capable d'enseigner les Écritures. Que dit le passage d'Hébreux? Vous devriez être des maîtres. Et le maître, il fait quoi? C'est pas juste, il y a l'idée de maîtriser, c'est-à-dire de comprendre, de saisir, mais nous, les maîtres, on appelait ça à l'école des personnes qui enseignaient, n'est-ce pas? Instruisez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que dans l'église locale, certes, s'il y en a qui ont un don spirituel, eh bien, de proclamer la parole de Dieu, hein, certains qui ont le don d'enseigner, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas prendre une part active dans l'instruction. En lisant les Écritures, nous comprenons que, voilà, il y a toutes sortes de chrétiens. Des chrétiens immatures, des chrétiens matures, des bébés en Christ et des adultes en Christ. On comprend aussi qu'il n'y a pas, il n'y a pas un égalitarisme absolu dans l'Église. Alors attention, Nous sommes tous égaux en Christ. Mais est-ce que nous avons tous les mêmes dons spirituels? Non. Est-ce que nous avons tous les mêmes responsabilités? Non. Et même en tant que personne, en tant qu'individu, on n'a pas tous les mêmes compétences intellectuelles non plus. Il y a diversité de dons, diversité de ministères, et tous n'ont pas les mêmes dons, ni même tous ne sont pas appelés au même ministère. Et donc c'est logique qu'il y ait dans une église, eh bien, des niveaux de compréhension différents. C'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester dans cet état de infantile, si vous voulez, de spiritualité. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a ces différences dans l'Église? Ben, déjà, parce qu'il y en a qui sont plus compétents que d'autres en matière de littérature. Hein, certains ont un esprit peut-être un peu plus orienté vers les sciences, vers les maths, etc. Et d'autres, bon, la littérature, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple. Hein, on arrive à analyser les mots, hein, à comprendre la syntaxe, le rapport, hein, des mots entre eux, etc. Et il y a cette aptitude naturelle, hein, pour la littérature, pour la grammaire. Deuxième chose aussi, certains chrétiens ont cette capacité, eh bien, d'investir plus de temps que les autres dans la lecture de la parole, dans l'étude de la parole. Hein, certains ont des emplois du temps très chargés. Et d'autant plus lorsque vous avez une famille à charge avec les enfants, etc. Ça remplit très bien votre journée. Et si vous avez en plus, hein, un travail, un emploi qui est exigeant, ça laisse peu de temps. Et d'autres ont plus de temps pour étudier les Écritures, et être en mesure de se consacrer à l'étude de la parole, hein, d'étudier les doctrines. Et bon, les pasteurs, ils font partie, hein, de ceux qui sont censés s'immerger dans la parole, toujours rechercher à connaître davantage et à s'instruire et à se former. Le verset 14 d'Hébreux 5 nous dit, la nourriture solide, elle est pour les hommes faits, hein, accomplis. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, donc il y a un emploi, c'est-à-dire que la connaissance acquise, il faut l'employer, et donc exercer par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et voilà un troisième point de cette responsabilité de la liberté que nous avons en Christ, celle de veiller sur la validité de l'enseignement qui est apporté dans l'Église. Certains pasteurs même, en regardant notre situation ici à Amiens et en voyant que, ben voilà, ils ont deux pasteurs, quand même, deux pasteurs, pour une petite Église. Il y en a un des deux, il ferait mieux d'aller s'occuper une de ces églises qui n'a pas de pasteur, ou même d'aller dans une autre ville et commencer une église. Je veux dire une chose, la grâce et la bénédiction que j'ai, moi, déjà en tant que chrétien et en tant que pasteur, c'est d'avoir un collègue qui va pouvoir lui aussi écouter ce que je suis en train d'enseigner et de présenter, et qui va pouvoir venir me dire, Jérémy, tu veux t'expliquer sur ce que tu as dit là? Est-ce que tu es sûr que c'est ça que l'Écriture enseigne? Mais cette responsabilité-là, ce n'est pas que la sienne. Cette responsabilité-là, elle appartient à chacun d'entre vous. On a déjà partagé cet exemple que nous trouvons dans le livre des Actes, au chapitre 17 et au verset 11. Hein, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, en parlant des chrétiens de Béa. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et surtout, ils examinaient chaque jour. Ils examinaient chaque jour quoi? Les Écritures. C'est-à-dire la parole, c'est le fondement. La parole, c'est l'étalon, c'est ce à quoi on doit comparer les choses. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir vous assurer que l'enseignement, que ce soit Philippe ou moi-même apportions, soit exact? C'est là, entre vos mains. Hein, c'est ce livre qui, j'espère, on n'utilise pas que le dimanche. C'est dans la parole de Dieu. Et donc il y a cette exigence pour le chrétien de passer du temps dans la parole pour la connaître, la comprendre, l'appliquer, mais aussi vérifier. Hein, ces juifs ont reçu et ils ont examiné l'enseignement sur la base des Écritures. Les épîtres de Paul à Timothée, l'épître de Tite, la première épître de Jean, la seconde épître de Pierre, hein, toutes ces épîtres donnent des instructions importantes à chaque chrétien. Pas simplement à Timothée qui était pasteur, mais à chaque chrétien qui recevait ces lettres, il y avait des instructions. Pourquoi? Parce qu'il y avait un fléau qui sévissait parmi les églises de cette époque. La venue de loups déguisés en brebis, de faux docteurs, de faux enseignants qui détournaient les chrétiens de la vérité doctrinale. Ainsi bien que même Paul, hein, leur a écrit en disant je m'étonne que vous soyez détournés aussi promptement. Je ne comprends pas. Vous avez reçu l'instruction, vous avez la parole, vous auriez dû pouvoir discerner. Mais cette liberté que nous avons, cette liberté, hein, que Christ nous a appelée, pour laquelle il nous a affranchis, il nous dit dans Galates 5:1, demeurez donc ferme. Il y a une lutte pour la liberté. Il y a un combat pour la vérité. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, hein, c'était des prétendus chrétiens qui allaient voir ces chrétiens d'origine païenne en leur disant Hé, Jésus-Christ, il est juif. Donc vous devez suivre les lois du judaïsme. Pourtant, c'était une question qui avait été déjà réglée, hein, des années auparavant, hein, à Jérusalem. Mais voilà. Des personnes qui enseignaient autre chose que ce que Christ et les apôtres ont enseigné. Et malheureusement, des églises qui se faisaient piéger. Donc la situation des églises de la Galatie, entre autres, était plus que préoccupante. Des faux docteurs étaient venus et avaient essayé de convaincre ces nouveaux croyants que pour être vraiment sauvés, ils devaient respecter la loi mosaïque. C'est ce qu'on appelle le légalisme. C'est de dire que c'est par la loi, que l'accomplissement de la loi qu'on va nous accomplir et suivre, qu'on va pouvoir être sauvés. Ça, c'est le légalisme. Et donc, ils appelaient les païens à se tourner vers un judaïsme. Et donc, ces judaïsants, ces faux docteurs, ils avaient cherché à discréditer non seulement le message de Paul et son enseignement, mais tout son ministère, son apostolat. Et ils prêchaient même un faux évangile. Voilà l'importance de connaître les Écritures et de développer ce discernement. Paul, il confronte immédiatement ses lecteurs à propos même d'une version donc déformée de l'évangile, hein, qui semble s'être installée parmi les églises de la Galatie et qui le pousse même à défendre son ministère. Donc il y avait un danger grave. Le danger, ce n'était pas que ces chrétiens perdent leur salut, parce qu'on ne peut pas perdre notre salut. Le danger pour ces chrétiens, c'était quoi? De se consacrer à essayer de suivre des lois que, pendant des siècles, le peuple d'Israël n'a même pas réussi à suivre. Et de perdre leur temps, finalement, de perdre leur énergie dans cela, plutôt que de consacrer cette énergie au service du Seigneur. Et dans ce chapitre 5 de l'épître aux Galates, donc Paul souligne l'incohérence pour le chrétien de se remettre donc sous le joug de la loi, alors que Christ les avait sortis, les avait libérés, affranchis. Mais notez encore une fois que toutes ces instructions-là n'ont pas été données seulement à des pasteurs, à des serviteurs de Dieu, mais à l'assemblée tout entière. Et tout ceci nous fait comprendre donc que chaque membre de l'Église locale a cette responsabilité individuelle d'employer cette liberté, hein, nous avons cette liberté, eh bien, pour vérifier l'enseignement, vérifier la validité de ce qui est enseigné, de ce qui est prêché, déjà pour lui-même, afin de ne pas dévier, mais aussi pour aider les autres chrétiens, pour protéger l'assemblée, de protéger le corps. Dans le corps humain, on a un système qui est très bien fait, n'est-ce pas? Parce que même malgré, hein, l'impact du péché sur la création et dans l'humanité, nous avons un corps humain qui est formidable. Nous avons un corps humain qui est capable de détecter l'intrus. Nous avons un corps humain qui est capable de détecter dès que, ben voilà, il y a des bactéries qui sont là, qui ne devraient pas être là, il y a un virus là. Et le corps, il ne fait pas que dire, attention, attention, attention. Le corps, il va agir pour défendre. Vous allez avoir, eh bien, si je me rappelle bien de mes cours de sciences nat, etc., mais bon, voilà, vous avez les globules blancs qui vont venir et qui vont s'attaquer aux intrus, empêcher que ça affecte et infecte le reste du corps. Mais parfois, ça ne suffit pas. Et parfois, on a besoin de suivre un traitement pour nous aider à combattre. Mais voilà. Tout comme dans le corps humain, ben dans le corps de l'Église, on a besoin d'avoir des hommes, des femmes qui connaissent les Écritures, qui sauront discerner quand quelque chose qui n'est pas biblique est enseigné. Et de pouvoir intervenir. Et intervenir toujours dans la grâce et dans l'amour du Christ, n'est-ce pas? Mais on a ce devoir. Dans Jude, au verset 3, l'auteur écrit: Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre. Pourquoi? Pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. À qui s'adresse-t-il? À une assemblée. Colossiens 2,8. Paul dit: Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde. Et non sur Christ. Encore une fois, quelle est la parole que nous devons connaître dans toute sa richesse, nous imprégner dans toute sa richesse? La parole de Christ. Quand nous connaissons la parole de Dieu, quand nous prenons le temps de l'étudier, de la comprendre, de l'appliquer dans notre vie, on acquiert ces connaissances qui vont nous permettre de défendre, de tenir ferme. Paul écrivit aux Éphésiens, chapitre 5, versets 6 à 10, il dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ça, c'est pour tout le monde. Comment est-ce que le croyant peut veiller à cela s'il ne prend pas soin d'étudier les Écritures, s'il n'écoute pas, reçoit pas l'instruction enseignée, partagée par ceux à qui Dieu a confié les dons, les responsabilités? Et une fois que ces instructions ont été emmagasinées, il s'agit alors pour chacun d'entre nous de les mettre à profit, pas que pour soi, mais pour le bien de tous. Parce que nous sommes un corps. N'est-ce pas? Alors certes, nous avons et nous jouissons de cette liberté en Christ, mais comme Paul nous le dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour je m'appuie sur mes lauriers. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour croire ce que vous avez envie de croire. Mais employez cette liberté qui a été acquise au plus grand prix pour être dans la vérité. Tout d'abord, nous sommes appelés donc à être fidèles au Seigneur. Pas fidèle à une église, mais fidèle au Seigneur. Alors certes, nous avons un sens que nous développons un sens de loyauté les uns envers les autres, parce que voilà, nous faisons partie de ce même corps. Nous sommes unis, bah, déjà par ces doctrines que nous acceptons, hein, que nous avons en commun, mais surtout parce que nous avons cet amour pour le Seigneur, qui nous appelle à avoir cet amour les uns pour les autres. Et c'est par cet amour que, bien, parce que j'aime, je vais chercher à protéger. L'instinct naturel, hein, de parents, d'un papa, d'une maman vis-à-vis de leur enfant, quand on les voit dans une situation dangereuse, hier, par exemple, Désolé, hein, souvent j'emploie mes enfants comme exemple, mais ce sont de si bons exemples. Mais hier, Abel était dehors en train de s'exercer au jonglage. Parce qu'il a appris ça de quelqu'un ici à l'église. Je ne vise personne, Jérémy. Mais bon, moi j'aime bien et c'est bien. Je lui ai dit, pas dans la maison, pas dans le salon, dans ta chambre tu peux encore, mais sinon tu vas dehors. Donc il s'est mis dehors pour jongler. Alors, bon, il se débrouille bien, il a bien appris, hein, et en si peu de temps, mais bon, ça arrive parfois que la balle parte ailleurs que là où il avait prévu. Et elle a atterri dans la haie. Alors c'est une pratique courante chez mes enfants hein, d'envoyer les choses dans la haie. Chaque fois que je vais tailler la haie, ah tiens, je retrouve un frisbee, et puis un autre jouet, et puis un autre ballon, et puis etc. Mais alors, d'un coup, il y a ma mère qui me dit, il y a Abel là qui est en train de grimper sur la chaise. Alors il avait sorti une chaise, et puis bon, j'avoue, j'aurais fait pareil, j'aurais pris une chaise à son âge, j'aurais fait pareil. Mais voilà, il essayait de tenir en équilibre sur un pied dans une chaise qui était en train de s'enfoncer dans un sol qui, par la pluie, était devenu très mou. Hein, et puis on le voyait, la chaise qui bougeait comme ça. Et alors tout de suite, il faut que j'ouvre la porte. Et ah, Abel, descend de là. On ira chercher l'échelle tout à l'heure et puis on ira chercher la balle. Mais voilà. Ça va être naturel pour un parent lorsqu'il va voir son enfant, un enfant qu'il aime, de vouloir son bien, de vouloir sa protection. Donc si nous avons cet amour les uns pour les autres, comme le Seigneur nous a appelés d'avoir, si nous constatons un danger, par amour, il nous faut intervenir, n'est-ce pas? Alors voilà, parmi les responsabilités et privilèges que nous avons en tant que chrétiens, et il y en a encore plein d'autres que nous développerons par la grâce de Dieu, hein, dans la semaine prochaine, pas prochaine, 2 semaines. Parce qu'il y a d'autres responsabilités que nous avons au sein de l'Église locale. Mais j'espère que ça nous encourage. Ça nous encourage déjà individuellement, eh bien, à s'exercer, à poursuivre la sainteté, à poursuivre l'excellence de Christ pour notre bénéfice, pour le bénéfice de l'ensemble et pour la gloire du Seigneur.